Béni soit le Seigneur. Je vous invite ce matin, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Ce message fait suite à un enseignement que j'ai donné il y a quelque temps sur les mathématiques de Dieu. Et ce matin, nous allons parler plus particulièrement de la multiplication. Vous rappelez-vous encore de vos tables ? Ça fonctionne encore ? Non, je ne vais pas faire d'interrogation. Mais nous allons parler donc un peu d'arithmétique ce matin. 2 Corinthiens 9, verset 10, vous connaissez ce passage. L'apôtre écrit : « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Amen. Un petit rappel, je disais donc ce message fait suite à une prédication que j'avais donnée il y a quelque temps sur la croissance de l'Église et nous avions mis alors l'accent sur deux verbes très importants, le verbe « croître » en grec, le verbe « oxano » et le verbe « multiplier » en grec « plétuno », peu importe, mais ces deux verbes, en tout cas, nous les retrouvons dans plusieurs passages des Actes des Apôtres. Par exemple, dans Actes 6, 7, lorsque Luc écrit « La parole de Dieu se répandait, elle croissait, autrement dit, et le nombre des disciples augmentait, multipliait beaucoup à Jérusalem. » Nous les retrouvons aussi, ces deux verbes, à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, plus exactement dans la version grecque de l'Ancien Testament, appelée la Septante, et dans un passage parmi les plus importants, puisque c'est la première parole de Dieu à l'égard de l'homme, dans Genèse 1, 28, il dit « Dieu les bénit » et Dieu leur dit « Soyez féconds et multipliez et remplissez toute la terre. » Croître et multiplier. Eh bien, ces deux verbes, nous les retrouvons dans le verset que nous venons de lire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très commun dans l'Église, dans la Bible, de trouver ces deux verbes associés. Ici, nous trouvons le verbe multiplier, vous fournira et multipliera la semence, et nous retrouvons le verbe croître, augmenter. Il est derrière ce verbe, augmenter. Donc ces deux verbes vont de pair dans la parole de Dieu. Et il nous parle de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu sur l'humanité à travers Adam et Ève. Mais ces deux verbes seront utilisés encore par le Seigneur pour bénir les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Israël est béni de cette double bénédiction de croissance et de multiplication. L'Église, elle aussi, Luc insiste dans les Actes des Apôtres, est bénie à travers ces deux verbes. Mais je voudrais vous dire ce matin, nous aussi, nous sommes bénis à notre tour par cette bénédiction. Cette bénédiction de croissance, cette bénédiction de multiplication, c'est un projet de Dieu pour notre vie, à chacun d'entre nous. Alléluia! Mais il est évident, vous le savez bien, qu'une bénédiction de Dieu ne doit pas être regardée comme une fin en soi. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, fais croître, Seigneur, fais augmenter, Seigneur, multiplie les bénédictions dans ma vie. » Car lorsque Dieu nous place sous une bénédiction, c'est en vue d'une commission. Dieu nous commissionne. Dieu nous fournit de la semence, dit l'apôtre Paul. Il nous fournit. Et il veut multiplier afin d'augmenter les fruits de notre justice. Mais en faisant cela, Dieu ne nous considère pas comme des gens passifs, mais actifs. Car nous sommes appelés à être les laboureurs des semences et les moissonneurs des fruits que nous devons porter étant placés sous la bénédiction de Dieu. Qui plus est, le maître de la moisson attend des rendements exceptionnels. La moisson de Dieu est une moisson exceptionnelle. Jésus a clairement dit, Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Portez beaucoup de fruits. Et que dit le Seigneur encore une fois dans la parabole du semeur ? la semence tombée dans la bonne terre va porter 30, 60 et 100 fois plus. 100 fois plus. Ça a dû fortement étonner ses auditeurs. En tout cas, pour ceux qui s'y connaissaient en culture. Sachez que les rendements moyens du blé tendre en France, dans les bonnes terres de la Beauce, sont de 70 quintaux à l'hectare. Avant 1940, les rendements étaient de 12 à 18 quintaux à l'hectare. Alors 30 et 60 étaient déjà des rendements inimaginables à l'époque. Mais que dire du centuple ? Que dire de 100 fois plus, même aujourd'hui, malgré tous les satellites ? Toute la technologie, toute l'expérience dans le domaine agricole, on n'arrive pas à obtenir 100 quintaux à l'hectare. Et le Seigneur nous dit, vous moissonnerez 30, 60 et 100 fois plus. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Alors comment atteindre tant de résultats ? Comment atteindre, Seigneur, ce centuple ? En croyant que Dieu nous place sous sa bénédiction. Dieu nous place sous une bénédiction de croissance et de multiplication. Alléluia. Ce matin, avec vous, je voudrais considérer trois éléments de cette bénédiction, devrais-je dire, de cette multiplication. Le premier élément, c'est la semence. C'est les dons de Dieu. La semence, c'est ce que Dieu va multiplier. C'est la base. Et il y a ensuite la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est quoi ? C'est l'opération de multiplication. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui fait croître, dit Paul. Et enfin, nous parlerons de l'ouvrier, le semeur, l'ouvrier de foi. Je vais faire un peu professeur de mathématiques. De la mathématique assez simple. Pour vous rappeler ce qu'est une multiplication, pardonnez-moi de vous faire cette gageure, c'est simplement pour que nous soyons un peu mis dans le bain avant d'avancer plus loin. Une multiplication, c'est quoi ? C'est un multiplicateur ? Il y a ensuite un signe opératoire et il y a le multiplier. Le multiplier, c'est celui qui donne son nom à la table. Si vous parlez de la table de 2, la table de 3, c'est la table du multiplié 2. Une fois 2, 2. Deux fois 2, 4. Et bien sûr, le résultat est appelé le produit. D'accord ? Ça, ce sont des choses que nous nous souvenons. Maintenant, si je mets ça en termes de vocabulaire spirituel, le multiplié. La base, c'est le don de Dieu. C'est ce que Dieu donne. Je vous l'ai dit. Le signe opératoire, la multiplication, c'est l'opération de Dieu. C'est Dieu qui multiplie. Savez-vous multiplier quelque chose ? Oh, oui, mentalement, mais matériellement, pouvons-nous multiplier ? L'homme ne sait pas multiplier, il ne sait qu'additionner, parce qu'il nous faut fabriquer les uns après les autres. Mais Dieu, lui, multiplie, et il multiplie instantanément. Quelque chose de merveilleux. Et puis il y a le multiplicateur, le coefficient multiplicateur. La puissance de la multiplication, c'est l'œuvre de la foi, l'œuvre de foi. Et l'œuvre de foi, multipliée par l'opération divine, multipliée par le don de Dieu, produit les fruits. D'accord ? Voilà quelque chose de très simple. Et nous allons essayer d'observer ces choses. D'abord, parler un peu de... C'est pas la bonne diapo, parler un peu de la semence. La semence, c'est ce que Dieu nous fournit, dit l'apôtre Paul. Dieu fournit la semence. Dieu nous fournit bien des semences de nature différente. Mais il en est deux que nous retrouvons dans les enseignements de Jésus et qui concernent chacun d'entre nous dans son royaume, dans son église. Et les deux semences que je veux considérer avec vous, vous les connaissez bien. La première, c'est la semence appelée les talents, et la deuxième appelée les mines. Les talents, nous trouvons ce passage dans Matthieu 25, 14, 30, la parabole, nous n'allons pas la relire ce matin. Benjamin nous en a parlé il y a quelque temps, nous la connaissons bien. Mais juste un instant, qu'est-ce qu'un talent ? Parce qu'avec la déformation du mot aujourd'hui, on pourrait se méprendre. Parce qu'un talent n'a rien à voir avec une habileté à l'époque de Jésus. Un talent, c'est en fait une quantité de métal, et particulièrement d'argent, métal-argent. Et une quantité assez importante, puisque un talent varie entre 25 et 45 kilos, mettons une trentaine de kilos d'argent. Eh, si vous imaginez des lingots d'argent de 1 kilo, eh bien, si celui qui a reçu un talent, il a déjà reçu une trentaine de lingots. Ah, déjà, on commence à mieux sentir les choses, hein, les voir. Mais alors, celui qui a reçu 5 talents, mes frères et sœurs, il en a toute une malle. 150 lingots d'argent. Aujourd'hui, l'argent, et la valeur de l'argent, c'est à peu près 730-750 euros le kilo. Donc, le talent, 30 kilos, c'est à peu près de 20 à 25 000 euros en données actuelles. Le talent. Un talent, 20 à 25 000 euros. 5 talents, 125 000 euros. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que dans l'esprit de Jésus, un talent, c'est une valeur puissante. C'est une valeur suffisante pour agir immédiatement. Quand vous avez 25 000, quand vous avez 100, 125 000 euros entre les mains, eh bien, vous avez une valeur. Vous avez quelque chose de concret. Et dans cette parabole des talents, ce que Jésus veut nous enseigner, le thème de cette parabole, c'est que selon notre appel, selon notre capacité, Dieu nous distribue des talents que nous devons faire fructifier. Et ces talents sont des dons. Pierre nous dit qu'à chacun d'entre nous, le Seigneur a donné au moins un charisme, un don, une valeur pour agir immédiatement. Gloire à Dieu. Les mines, c'est un peu différent. C'est vrai que les paraboles sont proches l'une de l'autre. Vous trouvez la parabole des mines dans Luc 19, versets 11 à 28. Et vous rappelez, le Seigneur va donner non pas les mines selon la capacité de chacun, mais il donne, le maître donne à ses serviteurs une mine à chacun. Il a 10 serviteurs, il leur confie une mine qu'ils devront faire fructifier pendant son absence. Une mine, qu'est-ce qu'une mine ? Eh bien, il faut 60 mines pour faire un talent. Je vous ai dit qu'un talent, c'est à peu près 30 kilos de métal. Autrement dit, une mine fait à peu près 500 grammes. 500 grammes d'argent, soit 380 à 400 euros. On n'est plus tout à fait dans la même dimension, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, nous parlions en dizaines, centaines de milliers d'euros. Là, nous parlons en quelques centaines. La dimension n'est pas tout à fait la même. C'est une petite valeur qui nous est confiée et chacun reçoit la même valeur indépendamment de sa capacité, de son appel. Ils ont tous une même mine, une même petite valeur qu'ils doivent tous faire fructifier. Nous avons tous reçu la semence de vie en Jésus-Christ. Indépendamment de notre appel, de nos ministères, de nos dons, mes frères et sœurs, nous avons tous reçu une semence de vie en Jésus. Et nous sommes tous appelés à faire fructifier cette semence, gloire à Dieu. Voilà donc pour ce que Paul nous dit, Dieu fournit la semence. Ça c'est le multiplier, la base de la multiplication, ce qui va être multiplié, cette semence que Dieu nous donne. Et Paul rajoute, Dieu multipliera la semence. Souvent nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec le peu que je possède ? En quoi, Seigneur, pourrais-je faire la différence dans mon entourage, dans cette ville de Paris, dans ce monde ? Je suis bien peu de choses. En quoi puis-je être utile ? Eh bien, ces deux paraboles sont là pour nous dire, et l'apôtre Paul aussi pour renforcer encore à travers son enseignement, que nous devons croire que Dieu est prêt à multiplier la semence qu'il nous a confier afin que nous portions des fruits en abondance. Dieu est celui qui multiplie, même si nous croyons que nous avons peu. Mais encore, faut-il lui permettre d'opérer ? Faut-il lui permettre d'opérer ? Dieu veut opérer un miracle de multiplication avec la semence qu'il nous confie. Mais retenez cela, il nous appartient à chacun d'enclencher cette opération. Ce n'est pas nous qui faisons l'opération, c'est Dieu qui multiplie. Mais nous devons permettre à Dieu de faire la multiplication. Nous devons enclencher le processus de multiplication. Alors, une question incontournable se pose. Que faisons-nous des différentes semences que Dieu nous donne ? Que ce soit un talent, cinq talents, que ce soit une mine, que faisons-nous ? Et nous voyons différents comportements dans les églises. Nous avons les contemplatifs. Oh Seigneur, ce que tu m'as donné est merveilleux. Oh, extraordinaire. Et ils passent des années à contempler l'appel de Dieu pour leur vie. Vous avez aussi les théoriciens. Alors eux, ils vont les examiner la semence dans tous les sens. La disséquer s'il le faut. Comment elle fonctionne. Quelles sont les promesses. Alors ça c'est les théoriciens, les contemplatifs, les théoriciens. Vous avez les conservateurs. Il nous faut protéger. Il nous faut stocker. Et alors, leur vie est comme un musée. Oh, voilà l'appel de Dieu pour ma vie. Un peu de poussière, vite. Ça, c'est la réaction de ceux qui cachent ou enterrent. Ils se disent souvent, oui, mais au moins, moi, je suis fidèle. J'ai préservé, j'ai conservé l'acquis. Je pourrai rendre à Dieu ce qui m'a été confié. Nous savons que c'est une fausse conception de la fidélité selon Dieu. La fidélité selon Dieu ne consiste pas à garder ce que Dieu nous a donné. La fidélité selon Dieu consiste à permettre à Dieu de multiplier ce qu'il nous a donné. Et d'ailleurs, celui qui a conservé, vous savez quelle a été la réaction du maître. Que lui a-t-il dit ? Serviteur, méchant et paresseux. Vous avez aussi les consommateurs, donc les contemplatifs, les théoriciens, les conservateurs, les consommateurs, et ça malheureusement il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils tirent un profit immédiat de ce que Dieu leur donne. Comme le fils prodigue, ils brûlent leur héritage. Ils brûlent leur héritage. Quand c'est un talent que Dieu leur donne, quand ce sont cinq talents que Dieu leur donne, quel gaspillage ! Quand Dieu donne à l'un cinq talents, je ne sais pas, pour servir Dieu à travers le monde des affaires, à travers peut-être l'enseignement, à travers toutes sortes de choses, mais une capacité qui est là, vous imaginez une capacité de cinq talents, quelqu'un qui a une capacité de cinq talents dans un domaine, mais qui au lieu d'apporter, de mettre ce talent dans le royaume de Dieu, va le mettre dans le monde et brûler ce talent pour lui. Quand je prêchais il y a quelque temps ce message aux jeunes, je leur disais que chaque fois que j'entendais le témoignage autour d'un homme comme Elvis Presley, et quand on l'entend chanter les gospels, chanter les cantiques, on se dit « mais cet homme a brûlé les talents que Dieu lui a donnés, il les a consommés pour lui-même dans le monde ». Mais quel homme, quel aurait-il pu être ? Si ce talent que Dieu lui a accordé avait été mis au service du royaume. Le fils prodigue a brûlé les talents que son père lui avait donnés dans le monde. Ses frères, ses sœurs, qu'auront-ils à rapporter au Seigneur ? Enfin, la bonne approche. Et quelle est la bonne approche ? Semer. Semer est la bonne approche. Semer ce que Dieu nous a donné. Semer dans la bonne terre. Semer dans le royaume du Seigneur. Semer, c'est déclencher l'opération de bénédiction. Tant que nous retenons, rien ne se produit. Tant que nous gardons, rien ne peut se faire. À partir du moment où nous semons, nous permettons à Dieu d'agir selon sa bénédiction. À partir du moment où nous semons, Dieu va commencer à multiplier ce qu'il nous confie et que nous avons consenti à semer. Juste ce point, semer n'est pas enterré. C'est subtil comme différence, n'est-ce pas ? Mais semer n'est pas enterré. Car celui qui a enterré a enfermé, a caché son talent et il n'en a rien fait. Semer, c'est différent. Je crains que, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même comportement. Il y a vraiment une différence. Celui qui sème, il jette sa semence en terre en donnant tout. Tandis que celui qui va cacher, il va quand même la garder pour soi. Il la garde pour soi, il la met à part. Et là, il faut des fois toute la subtilité du Seigneur, hein, pour voir la différence entre ces choses. Donc j'ai parlé premièrement du multiplier, les dons. Je viens de parler de permettre à Dieu de déclencher l'opération de bénédiction en semant. Je voudrais maintenant parler de ce troisième point qui est aussi très important, le multiplicateur, l'œuvre de la foi. Paul dit que Dieu veut augmenter les fruits de notre justice, mais Dieu les augmentera en fonction de l'œuvre de notre foi. L'œuvre de notre foi détermine le coefficient, la puissance de la multiplication. Par combien seront multipliés les dons que Dieu nous a donnés? Et ce combien, c'est notre foi. C'est l'œuvre de notre foi. Je voudrais illustrer rapidement ce que je vais vous dire maintenant à travers ces tableaux. Et c'est des tableaux qui nous parlent d'abord de cette parabole des talents. Vous voulez retrouver la parabole des talents ici? Voyez, un a reçu 5, un a reçu 2, un a reçu 1. Ils ont travaillé, enfin 2 au moins, et quand le maître revient, il constate que 1 a 10, l'autre a 4, l'autre a 1. C'est-à-dire que le premier a multiplié par 2, le deuxième a multiplié par 2, tandis que le premier n'a fait que multiplier par 1. Vous êtes d'accord? Ce tableau résume bien la parabole des talents. À quoi s'intéresse le maître? À quoi véritablement le maître est attentif? Le maître s'intéresse, c'est vrai, on pourrait le penser à ce résultat. Combien rapportez-vous? L'un rapporte 10 talents, l'autre en rapporte 4 et l'autre en rapporte 1. Mais le maître sait aussi combien il a confié à chacun. Au début, il avait confié au premier 5, à l'autre 2 et à l'autre 1. Ce que je vous fais comprendre à travers cela, c'est que le jugement du maître est relatif. Car bien sûr, s'il regarde au résultat final, il tient compte avant tout du don initial. Combien t'avais-je confié au début et combien m'en apportes-tu à la fin? Et là, il y a quand même un enseignement très important. C'est que Dieu mesure et Dieu récompense. Et ça, nous sommes mal à l'aise. Ah, ça nous titille toujours un petit peu de nous dire, Dieu, tu vas mesurer et récompenser. C'est pour ça que trop souvent on se dit, ah Seigneur, j'ai été fidèle, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et on voudrait que ça soit comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu qui va mesurer et récompenser. Et qu'est-ce qu'il va mesurer et récompenser? Ce n'est pas tellement ça, c'est ça. C'est-à-dire l'œuvre de notre foi. Combien t'ai-je donné au début? Combien me rends-tu à la fin? Et donc comme ça, je sais quelle est l'intensité de ton engagement. Je sais quelle est l'œuvre de ta foi. L'œuvre de ta foi détermine la puissance de la multiplication. Celui qui s'est contenté d'enterrer son talent et le rendre tel qu'il l'avait reçu au départ n'a produit qu'une foi de puissance 1. Autrement dit, il n'a rien produit. C'est neutre. 1 est appelé coefficient neutre. C'est neutre. Il n'a rien fait. Il n'a été utile en rien du tout. Mais quant aux deux autres, numéro 1 et numéro 2, vous savez que dans la parabole des talents, ils reçoivent la même bénédiction, la même parole d'encouragement de la part du maître. Pourquoi? Parce que le maître ne regarde moins aux 10 et aux 4 qu'aux 2 et aux 2. Chacun des deux ouvriers a produit une œuvre de foi de puissance 2. Et c'est ça qui est important. Oui, mais lui avait reçu plus. Mais il a travaillé autant que celui qui n'en avait que deux. Et celui qui en avait deux en avait reçu autant, a travaillé autant que celui qui en avait reçu 5. C'est ça l'important. L'œuvre de leur foi. La puissance qu'ils ont démontrée. Au temps du jugement, Christ mesura la réalité de notre engagement. Pas tant dans l'étendue du résultat, d'accord? C'est-à-dire combien de talents nous rapporterons. Parce que ça, c'est fonction de ce qu'il nous a donné au départ. Mais il mesura l'œuvre de notre foi. Donc vous voyez, le fait de dire, oui, mais lui est apôtre, moi, je suis simple croyant. Il est normal que lui te rapporte plus, mais moi. Mais donc, c'est pas tout à fait lui, je ne suis pas Billy Graham, je ne suis pas Reinhard Bonnke. Mais vous comprenez qu'au bout du compte, le Seigneur sait très bien combien il a donné à Billy Graham, combien il a donné à Reinhard Bonnke, il sait combien il t'a donné. Nous ne sommes pas, bien sûr, sur la même échelle, mais ce que Dieu mesure, c'est l'œuvre de la foi de Billy Graham et de Reinhard Bonnke selon ce qu'ils ont reçu, mais il va mesurer pareillement l'œuvre de ta foi selon ce que tu as reçu. Et le jugement de Dieu est juste, n'est-ce pas? Le jugement de Dieu est juste. Je voudrais aussi faire une illustration avec la parabole des mines. Dans la parabole des mines, il n'est nullement question de capacité personnelle ou spirituelle. Le maître donne une mine à chacun de ses serviteurs. Vous savez, ils sont 10 et ils reçoivent tous une mine. C'est la même. Indépendamment de toutes leurs qualités, ils ont la même mine. Puis, quand il revient longtemps après, il fait rendre compte de l'intendance de cette mine à chacun de ses serviteurs, et l'un va en ramener 10, l'autre 5, et puis il nous dit, un autre n'en ramènera qu'une parce qu'il l'a cachée. Et le maître va donc féliciter les deux premiers, tandis que le dernier, il va le rabrouer. Que devons-nous comprendre des mines ? Les mines sont indépendantes de tout ministère, de tout don particulier. Nous avons tous reçu la même valeur, je l'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, le maître ne fait pas de différence en fonction des individus. Quand il s'agit de juger les mines, il n'y a ni Billy Graham, ni Reinhard Bonnke, ni simple chrétien, nous sommes tous pareils. Nous avons tous reçu la même vie en Jésus-Christ. Est-ce vrai ou pas vrai? Et c'est ça que Dieu va mesurer. Le maître ne s'intéresse donc pas maintenant à ce que nous avons accompli, mais à ce que nous avons produit par nous-mêmes. À travers la parabole des mines, Dieu ne juge pas nos œuvres, mais il juge le degré de transformation, de sanctification de notre vie. Comment la vie de Jésus a grandi, a augmenté en nous. D'accord ? Et il est vrai, Et il est vrai que le résultat final est égal à l'œuvre de notre foi, puisque c'est multiplié par un. Ce que nous apporterons comme fruit de sanctification, de développement personnel, de piété, de foi à notre Dieu, sera le témoignage de l'œuvre de notre foi personnellement, comment nous serons attachés au Seigneur dans notre vie de chaque instant. Et c'est ce que Dieu mesurera à travers ce jugement des mines. Voilà donc deux semences différentes l'une de l'autre. Et dans les deux cas, ce que nous comprenons, que ce qui fait la récompense ou ce qui fait le reproche, ce ne sont pas les multipliés, c'est-à-dire la base, les dons, les semences. Dieu ne va pas juger, ah, toi tu as tel ministère, toi tu as tel ministère. Il sait ce qu'il nous a donné. Ensuite, concernant l'opération, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui multiplie. Donc le jugement ne porte pas sur ça. Sur quoi le jugement va porter, ce qui fait la différence, c'est moi. C'est l'œuvre de notre foi. Je vous l'ai dit, l'œuvre de notre foi, mes frères et sœurs, détermine la puissance de la multiplication. L'œuvre de notre foi est le coefficient multiplicateur. Alors laissez-moi vous dire cette chose. À ce niveau, ce n'est pas Dieu qui fixe la limite. C'est nous. C'est nous qui fixons la limite. Serons-nous de ceux qui vont enterrer ou de ceux qui vont semer? Serons-nous de ceux qui vont rester en admiration devant l'appel de Dieu ou allons-nous travailler et œuvrer pour son royaume? Un exemple pour vous montrer que c'est notre service qui est en cause. Vous rappelez dans 2 Rois 4 le récit de la veuve et du prophète Élisée. Cette veuve vient se plaindre auprès d'Élisée parce que le créancier vient lui prendre ses enfants. « Qu'as-tu à la maison ?» lui dit Élisée. « Oh, parents, un peu d'huile. Eh bien, va demander des vases. Hein, va demander des vases à tes voisines, et puis viens et verse l'huile dans les vases. Et vous connaissez ce que cette brave femme a fait, est allée chercher des vases. Et tant qu'elle a présenté des vases, l'huile a coulé. Mais quand il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Et là, nous avons un miracle de croissance et de multiplication. Alors, c'est vrai, on dit souvent que le miracle était dans la maison. Parce que la base de la multiplication était dans la maison de cette femme, l'huile. Mais je voudrais vous dire que le miracle ne s'est accompli que parce que cette femme est sortie de la maison pour aller chercher les vases. Elle est allée chercher des vases. Elle les a amenés dans la maison et l'huile a coulé. À travers cette histoire, ce récit très simple de la veuve et d'Élisée, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Que la base de la multiplication est chez nous. La base de la multiplication est dans nos vies. Dieu nous a accordé suffisamment. Il y aura toujours dans notre maison un fond d'huile. Il y aura toujours dans notre maison un fond de farine. Il y aura toujours suffisamment pour que le Seigneur opère. Même si ça nous paraît insignifiant, Dieu accomplira le miracle. Mais ce qui est en tout aussi important, l'autre opérateur de la multiplication, notre foi, l'œuvre de notre foi. Combien de vases irons-nous chercher ? Combien de vases présenterons-nous pour que le miracle continue de s'accomplir ? Dieu nous a placés sous une bénédiction de croissance et de multiplication. Et il veut réaliser encore ce miracle aujourd'hui. Mon dernier point serait d'insister encore sur le semeur. Rappelez-vous le début de la parabole du semeur ? Quel est le premier verset de la parabole du semeur ? Un semeur sorti pour semer. Quel est le mot important ici ? Ah, vous l'avez compris, sortir. Jésus nous enseigne que la première condition pour que le miracle de multiplication s'accomplisse, sortir. Parce que tant que le semeur reste chez lui, rien ne se passera, il faut qu'il sorte. Le miracle de multiplication ne s'accomplira dans nos vies que si nous acceptons de sortir. De sortir de quoi ? Oh, souvent, de sortir de nous-mêmes. De sortir des limites que nous nous fixons, du regard que nous nous portons sur nous-mêmes. Seigneur, je ne suis pas capable. Dieu veut toujours nous amener plus loin. Il veut étendre le champ de notre action, étendre nos limites. Parce que si le royaume de Dieu devait être fonction de ce que nous sommes capables, ouf, il n'irait pas bien loin. Mais Dieu prend des gens simples comme vous et moi et il nous amène au-delà de nos limites. Mais il faut reconnaître, c'est exigeant. C'est même parfois terrifiant. Mais nous pensons aux apôtres qui, pour beaucoup, n'avaient grandi que dans ce pays de Galilée et que le Seigneur a envoyé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Seigneur, le plus loin que nous sommes allés, c'est Jérusalem. Ils ont dû prendre les routes, les bateaux, traverser des empires inconnus pour aller porter la parole du Seigneur. Dieu nous amène au-delà de l'unité, alors il va nous tirer dans tous les sens. Oh, c'est pas évident. Mais nous devons aussi sortir de quoi ? Des sentiers battus. Des sentiers battus par le doute, par l'échec, par l'impossibilité, par l'incrédulité. Toutes ces choses sont comme autant de barrières qui se dressent devant nous pour dire « c'est pas possible, tu n'iras pas plus loin que ça ». Et si on devait regarder à toutes ces barrières qui sont dans notre pays, le champ d'action de l'Église serait très restreint. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Et il faut sortir. Il faut sortir de toutes nos limites personnelles, de toutes les limites que les esprits, que la culture veut nous imposer. Le laboureur est sorti. Si le laboureur ne sort pas, il ne sera qu'un conservateur ou un consommateur. Conservateur ou consommateur de quoi ? Du peu qu'il a. Parce qu'au fond, même un talent aux yeux de Dieu, c'est peu de choses. Il le dit, tu as été fidèle en peu de choses, dit le Seigneur. Mais si ce peu de choses que Dieu nous donne, nous le gardons pour nous-mêmes sans sortir, nous n'aurons gardé que peu de choses, nous n'aurons consommé que peu de choses par rapport à tout ce que Dieu est capable de nous donner et veut nous donner. Dernier verset que je veux laisser sur votre cœur. Il nous a été apporté ici il y a quelque temps par notre frère, pasteur Ruben de Matos, lorsqu'il est venu, et ce verset a touché mon cœur, dans Genèse 15:6, où il est écrit que « après avoir conduit Abraham dehors, Dieu lui dit « regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter », et il lui dit « telle sera ta postérité ». Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dieu le conduit dehors. Et Dieu veut nous faire sortir. Car si nous semons pour le royaume de Dieu, ce que nous voulons faire, c'est semer dehors. Et c'est là que le miracle s'accomplira. Oui, Dieu nous place sous cette double bénédiction de croissance et de multiplication. Et il nous dit, je t'ai donné la semence, la base de la multiplication. Et il nous dit, je suis prêt à opérer la multiplication. Toi, tu ne peux pas multiplier. Dieu peut multiplier. Mais il nous dit, il t'appartient de produire l'effet multiplicateur. Il t'appartient d'œuvrer par la foi pour atteindre le centuple qu'il désire nous accorder. Dieu est celui donc qui mesurera et qui rémunérera notre foi. Il la rémunérera dans le ciel. Au jour du jugement, du tribunal de Christ, Dieu mesurera et récompensera chacun de ses serviteurs en fonction des talents et des mines qu'il aura confiés. Oui, mais dès aujourd'hui, sur cette terre, Dieu veut commencer à nous rémunérer. Il veut commencer à nous rémunérer en augmentant les fruits de notre justice, en multipliant ce qu'il nous a confié. On l'évoquait un peu avec M. Boulagnon ce matin. Moi, je veux me réjouir, vrais frères et sœurs, de ce que, depuis que je suis au milieu de vous, depuis que nous sommes ensemble, nous ne parlons plus en termes d'addition, mais nous commençons à parler en termes de multiplication. Et il y a bien des choses que Dieu a commencé de multiplier dans l'Église. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Et j'ai envie de dire, Seigneur, continue. Et vraiment, quand j'ai prêché ces messages en début d'année, ça a été pour moi comme une parole de Dieu pour cette année. Alors pardonnez-moi de vous la donner un peu tard, le programme a été ce qu'il a été. Mais la première fois que j'ai prêché ça, j'ai dit, Seigneur, c'est une parole pour cette année. Voilà une parole que tu nous donnes, non seulement à moi-même, mais à l'Église. Une parole de croissance et une parole de multiplication. Et Dieu va honorer sa parole. Alléluia.